Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église. Aujourd'hui, il va y être question d'action humanitaire et plus précisément d'action humanitaire dans les domaines médical, dentaire et éducatif avec l'association AMK basée à Toulouse et à Montpellier. Elle intervient au Sénégal, au sud-ouest du pays, dans la région de Basse-Casamance. Et nous allons parler des actions qu'elle mène là-bas avec les deux invités de cette émission, Marie-Sylvie Massy et Julien Albar. Bienvenue donc à vous aussi, Marie-Sylvie Massy et Julien Albar. Vous êtes tous les deux membres de l'association AMK. Marie-Sylvie Massy, vous en avez même été la présidente. J'ai rapidement présenté l'objet de l'association, mais je vais vous demander évidemment de nous en dire un peu plus sur elle. Quand a-t-elle été créée? Comment est-elle organisée? Et comment fonctionne-t-elle actuellement?
AMK a été créée il y a 25 ans. Le docteur Benoît Garçon y est allé en famille parce que sa femme y était née à peu près. Donc ils se sont rapprochés de ce secteur de la Casamance. Et puis brutalement, ils ont vu que cette population avait besoin d'aide. Ils ont été bien entendu sollicités par les chefs du village. Et AMK a démarré. Donc ensuite, pas mal de médecins ont rejoint le docteur Benoît Garçon. Et plus tard, ils sont partis d'abord avec des infirmières et des médecins. Et puis ensuite, nous nous sommes étoffés avec des logisticiens, des gens dans le bâtiment, toutes les bonnes volontés se sont associées à notre groupe. Et ainsi, nous avons pu mener beaucoup d'actions pour aider la population qui en avait vraiment besoin. Après, justement, tous les problèmes qu'il y avait eu, tout ce qui s'était passé dans cette région et tout ce qui se passe encore un petit peu à bas bruit.
Alors, on y reviendra peut-être sur cet aspect conflit qu'il peut y avoir dans cette région, comme malheureusement il y en a beaucoup en Afrique. L'association donc AMK a été créée en juin 2000, bientôt 25 ans d'existence hein, tout de même. Vous êtes combien à en faire partie? Parce qu'il y a des professionnels, bien sûr, notamment du domaine de la santé, mais aussi des bénévoles stricto sensu.
Alors en fait, oui, c'est vrai, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui œuvrent et qui connaissent AMK, qui connaissent tous les rouages de notre association. Et puis, il y a quelquefois des bénévoles qui nous rejoignent. Et toutes les personnes de bonne volonté sont bien entendu acceptées. Au départ, on était quand même beaucoup plus de médecins, pharmaciens, dentistes, puisque moi, j'ai été la troisième présidente, mais auparavant, elle était organisée par le docteur Benoît Garçon. Ensuite, on a eu le docteur Annie Brouchet, qui était anesthésiste à l'hôpital et qui a pris la suite de Benoît Garçon. Et tous ces gens ont une activité qui leur est propre, mais si vous voulez, ensemble, on arrive à avancer et à créer du lien avec la population et à les aider autant qu'on peut.
Et en même temps, disons, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous au niveau, disons, de la région et même de la France. Par exemple, pour les parrainages, parrainage au départ dans un collège, justement des sœurs piaristes dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite, nous avons fondé, on en parlera aussi tout à l'heure, un internat pour jeunes filles. Et là, il y a une cinquantaine de parrains qui nous apportent régulièrement, tous les mois, une participation pour faire fonctionner cet internat.
Il y a l'internat et ensuite, bon, il y a la garderie. Bon, on en parlera peut-être plus tard aussi, qui fonctionne aussi avec des parrainages.
Oui, alors parce que l'association AMK est basée vraiment dans la région. Il y a une antenne à Toulouse et une à Montpellier. La plupart des gens qui travaillent avec vous sont aussi originaires de la région, mais pas seulement. Il y a vraiment des gens qui viennent de toute la France.
Exactement, hein. Oui.
Notamment des professionnels de santé.
Des professionnels de santé de la région de Tours.
Normandie.
On
a eu Strasbourg, enfin, etc. Tous ces gens nous ont connus de bouche à oreille, souvent par le milieu médical, et se sont rapprochés de nous. On a eu une dentiste qui est restée une dizaine d'années. Bon, maintenant, elle a fait des problèmes de santé qui lui ont demandé d'arrêter. Mais je veux dire, elle s'est donnée à fond. Elle était une tête pensante de l'association et de l'organisation.
Et originaire de Caen?
Il faudrait qu'on revienne maintenant à la base Casamance, donc où vous intervenez. Tout le monde ne situe pas, alors déjà, je ne suis pas certain que tout le monde situe bien le Sénégal sur une carte. Mais là, c'est vraiment au sud-ouest du Sénégal. C'est tout en bas, à la frontière avec Guinée-Bissau. Et juste au-dessus, c'est la Gambie qui est enserrée dans le Sénégal, un peu comme prise dans des mâchoires. Et la population, c'est quelle ethnie, en fait? C'est pas les Wolofs hein, qui sont majoritaires au Sénégal.
Alors, c'est vrai que c'est une région, vous en parlez, qui est quand même très peu connue. Hein. La Casamance n'a rien à voir avec Dakar. Quand on parle Sénégal, les gens, ils pensent Dakar. Ils se disent, c'est Sali, enfin, etc. La Casamance, c'est une région qui est complètement oubliée. Les ethnies qui sont, c'est les Diola, en grande majorité, et les Wolofs, qui vivent, eux, ils s'entendent tout à fait bien, enfin, ça se passe très bien entre eux, mais c'est quand même une population qui est très, très abandonnée, parce que, comme vous dites, d'aller de Dakar en Casamance, c'est une journée, au mieux, ou une nuit en bateau. C'est vraiment une petite région bien entourée.
Vous, c'est le département d'Oussouy. Hein.
Le département d'Oussouy,
il y a 25 villages. Hein.
Voilà. Et on peut ajouter que la population se répartit pratiquement à moitié sont catholiques, moitié sont musulmans, mais il y a une très bonne entente, disons, entre eux.
La géographie, ça ressemble à quoi? C'est très forestier. Hein.
C'est forestier.
Alors, il y a l'océan qui est tout près, hein, bien sûr.
Voilà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les bolons, c'est-à-dire les bras de la Casamance.
Du fleuve.
Du fleuve, Casamance. C'est même risqué parce que souvent, il y a des remontées de sel dans cette eau qui stérilise en quelque sorte des terres. Et donc, il faut qu'ils se battent contre l'invasion un petit peu du sel sur certaines terres.
C'est très forestier et la culture principale et même l'alimentation principale d'ailleurs, c'est le riz. Donc la culture, ce sont des rizières.
C'est le riz et le poisson, leur principale nourriture. Mais ça n'a rien à voir vraiment. Les paysages sont très beaux. Tous les gens qui vont en Casamance trouvent que c'est la plus belle région du Sénégal.
Il y a du tourisme d'ailleurs là-bas.
Hein. Alors il y a eu du tourisme au début, enfin il y a quelques années, avec même un Club Med qui s'était installé.
Voilà.
Des pêcheurs qui venaient, etc. Et puis bon, ensuite, avec les problèmes d'indépendance, etc., ça a été interdit. Le Club Méditerranée avait fermé de nombreuses années, ce qui est quand même dommage parce que ça faisait vivre pas mal de familles. Et bon, il a rouvert, ça se passe bien, mais enfin bon, c'est quand même le Club Méditerranée, c'est-à-dire que c'est une population qui n'est pas tout à fait en lien avec la population de Casamance.
Qui n'est pas là pour forcément faire connaissance avec les populations locales.
Voilà.
On peut dire que la production de riz, c'est une production familiale. C'est essentiellement des petits lopins, des petites rizières, des petits lopins de 15 mètres sur 15, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une production familiale. Et pour les collectivités, souvent, c'est des camions de riz qui déchargent du riz importé venant de Thaïlande, venant d'Indonésie. Voilà. Donc, c'est un problème. Les rizières sont progressivement abandonnées, ce qui est fort dommage.
Vous l'avez dit, à une époque, il y a eu des conflits là-bas. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de conflits ethniques ou de conflits pour des terres, peut-être. Aujourd'hui, les choses se sont vraiment apaisées.
Oui, oui, il y a toujours un petit peu... On ne se promène pas la nuit dans les rues, mais c'est quand même beaucoup plus calme. Quand on est arrivé il y a 20 ans, quand on circulait, on était arrêté 10 fois par les militaires. Là, maintenant, ça ne se passe plus comme ça. D'ailleurs, je suis quand même très, très étonnée qu'on dise encore qu'il ne faut pas aller en Casamance. C'est une région qui est belle à voir et qu'on devrait vraiment
qui
remettre...
Qui ne présente pas plus de risques que
pas
ça.
Pas du tout, pas du tout. Il y a une grande sécurité maintenant. Et puis, j'ai envie de dire que pour nous, on est quand même connus, puisque ça fait 25 ans qu'on y circule. On n'a jamais senti le moindre problème, ni avec la population.
Et on peut souligner que ce que l'on vit là-bas, c'est la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité de la population de Casamance.
Donc vous êtes toujours très bien reçu.
Oui, ils nous attendent toujours et c'est vrai qu'ils sont friands de nous apporter leur aide. On n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les aider. Et ils l'ont très bien compris et c'est ensemble que nous fonctionnons. Il n'y a jamais de choses faites de notre part sans que nous ayons leur accord, leur demande. Ça se passe avec eux, on fait une famille avec eux.
Et pour résumer, on peut dire que ce n'est pas de l'assistanat, c'est du partenariat.
Voilà, vous travaillez vraiment avec les structures locales, d'égal à égal, si on peut dire, et vous tenez à ce que ça se passe comme ça.
Voilà, c'est notre principale raison d'y aller. On est ensemble, ils le disent d'ailleurs, c'est une phrase qu'ils le disent souvent quand on les voit, on est ensemble, quand on règle un problème, on est ensemble. C'est vraiment toujours comme ça que ça se passe.
Le mot ensemble est important.
Oui, le mot ensemble est important et ils s'y tiennent.
Et on ne travaille pas pour, mais avec.
Oui, vous travaillez vraiment avec eux, c'est pour ça que j'ai employé le terme d'égal à égal. Alors, je l'ai dit en introduction, les actions d'AMK concernent les domaines médical, dentaire et éducatif. C'est vraiment là qu'il y a les plus gros besoins dans cette région.
Tout à fait, parce que c'est comme ça que je pense qu'un pays peut évoluer. Et ils se battent pour évoluer. Ce sont des gens qui sont volontaires.
Ils sont courageux.
Voilà, ils sont courageux et volontaires. Donc, c'est vrai, c'est là où les actions sont les plus importantes.
Alors, il y a l'aspect alimentaire, bien sûr, mais qui en découle d'une certaine manière. Parce que la population est très jeune, on ne l'a pas dit, mais je suppose qu'il y a énormément de jeunes. Il y a des problèmes de malnutrition tout de même.
Alors, c'est vrai que...
Cette mononutrition un peu à base de riz entraîne évidemment des problèmes de santé.
C'est-à-dire que les médecins se sont quand même rendus compte quand ils ont pu faire des consultations scolaires, enfin, dans les écoles, que, en fait, les enfants n'avaient quand même pas été souvent... en dessous des courbes, enfin je veux dire, c'est généralement ça.
De croissance,
voilà,
vous voulez dire.
Oui, voilà, des courbes de croissance. Donc c'est vrai, ces enfants, ils ont besoin d'une alimentation plus avec des légumes, des protéines, chose qu'ils n'ont pas. Alors ils ne sont pas malnutris comme on a pu le voir dans d'autres pays africains, mais c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir une évolution à ce domaine. Et puis, leur nourriture à l'heure actuelle, c'est à base de riz, de sucre, parce que le sucre, ils en mettent partout, et voilà. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant aujourd'hui? C'est dans les adultes des diabètes et de l'hypertension, comme chez nous. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin de diversifier leur alimentation, et ils pourront le faire grâce, justement, à toutes ces possibilités qu'il y a dans ce secteur, au point de vue agricole.
Les conséquences aussi d'une mauvaise nutrition, d'une malnutrition, de la consommation de sucre, c'est les problèmes dentaires.
Voilà,
c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de problèmes dentaires, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, de dents mal soignées.
Disons, si au début, il y avait pas mal de malades, disons de patients, liés à des problèmes de paludisme, compte tenu de l'implantation quand même de nombreux postes de santé dans les villages, dans le département d'Oussouye, il y a eu une très forte amélioration de la santé. Et maintenant, on a constaté, maintenant c'est sur les aspects dentaires que l'on insiste beaucoup. Nous avons développé un cabinet dentaire, créé un cabinet dentaire, et c'est peut-être le problème majeur. Entre autres, beaucoup d'enfants grimpaient aux arbres, au baobab, pour manger des pains de singe qu'on appelait très sucrés. Et donc, une détérioration de l'hygiène bucco-dentaire, et peut-être plus... d'ailleurs, dans les zones touristiques que dans les zones très éloignées, compte tenu que là aussi, les touristes distribuaient beaucoup de bonbons et avec les dentistes, entre autres, se sont fortement opposés à cette distribution qui entraînait des problèmes dentaires importants.
Les dentistes, il y a un cabinet de pédodentistes de Toulouse qui est venu une année. Elles ont été quand même terriblement surprise, mais pas dans le bon sens, de l'état dentaire des enfants. Tous les enfants ont des caries.
Ouais.
Tous les enfants ont des caries.
Quelles sont les structures de la région Occitanie, donc chez nous, là, qui aident l'association pour financer ces actions? Alors, est-ce que c'est d'ailleurs sous forme de financement ou est-ce que ça peut être sous forme de prêt ou d'apport de matériel, voire de mise à disposition de certaines compétences?
Toutes les compétences sont bonnes à prendre. Bien entendu, aujourd'hui, on a besoin d'un camion, par exemple. Et c'était une personne qu'on avait rencontrée au Cap Skerring qui nous avait donné un camion qui est en bout de course maintenant. Mais surtout, on a des structures. On a Occitanie Coopération qui nous a aidés.
Bon, ça, c'est la région. C'est un organisme qui dépend de la région Occitanie.
Voilà. Il y a le laboratoire Pierre Fabre qui vraiment a pris à cœur...
La fondation Pierre Fabre ?
Oui, la fondation, pardon, qui a pris à cœur vraiment justement le problème dentaire en nous fournissant des brosses à dents, enfin, etc., qui nous aident beaucoup.
Et un financement important.
Et un financement important parce que le matériel dentaire coûte cher. Ils nous ont vraiment écoutés et ils nous ont aidés.
Suite à une convention passée avec eux, où le programme sur les années 2022-2023 concernait, disons, 5000 patients adultes et la prévention dans les écoles concernant environ 5000 enfants. Ce programme vient d'être achevé et réalisé, mais ce n'est pas pour autant que les dentistes arrêtent leur travail en ce sens.
Et il y a aussi le Caousou qui nous aide. Ils ont organisé une marche où,
la marche solidaire.
Oui, la marche solidaire où ils récoltent des fonds. Et on a été élu une première fois il y a à peu près 7 ans. Donc on a pu améliorer l'internat à ce moment-là. Et là, on est reparti pour essayer d'avoir encore des fonds grâce à cette marche solidaire pour nos projets à suivre. Après aussi, il y a eu une école qui a fait
oui,
la même chose.
Oui, le lycée privé de Vannes, qui nous a aidé aussi pour la garderie.
Électriciens sans frontières nous avait bien aidé pour monter l'internat, puisqu'on a construit un internat.
On a travaillé avec Électriciens sans frontières oui. au niveau de l'internat pour l'équipement oui, en panneaux solaires.
Voilà.
Alors, il y a les relais sur place, on en a parlé tout à l'heure, hein, évidemment, qui sont très importants. Quelles sont les structures locales qui travaillent avec vous? Ce sont des chefs de village, des maires, l'État lui-même, en tout cas des organismes qui dépendent du gouvernement sénégalais peut-être?
Alors, on n'a jamais fonctionné sans prévenir l'ambassade, enfin, etc., le ministère de la Santé, tout ça. Mais sur place, on travaille avec le médecin-chef d'Oussouille, qui est donc le médecin-chef qui couvre la région. On travaille avec les chefs du village, parce que dans certains villages qui sont plus étendus, ben, y a plusieurs chefs du village. On travaille avec le préfet, avec la mairie, si vous voulez. Toutes ces structures connaissent notre, j'ai envie de dire, c'est un peu orgueilleux de ma part, mais notre efficacité, et nous reçoivent toujours avec beaucoup de sollicitude, parce qu'ils savent que nous allons dans le bon sens, mais comme on disait tout à l'heure, on doit faire avec eux. On doit être en adéquation avec leurs souhaits. On n'est jamais cavalier seul. Et d'ailleurs, je dois dire qu'aucune structure qui sont venues sur place, toutes les pseudo-associations ou ONG qui sont venues, s'ils ne passent pas par cette relation importante qu'on a, ben, ça ne peut pas marcher. C'est tout à fait normal.
Et en ce sens, disons, les relations et les structures sont basées assez souvent sur des conventions passées entre nous et oui. eux. C'est le cas pour le cabinet dentaire d'Elenkin, où une convention a été passée avec la mairie, le médecin-chef de l'hôpital et une autre association qui est intervenue là-bas au niveau dentaire.
Oui, parce que vous pouvez collaborer aussi avec d'autres associations qui œuvrent sur place. Donc, d'ailleurs, certaines émanent aussi de notre région.
Très exactement. Il y a entre autres deux associations. Une qui est basée sur Fonsegrive, à savoir Occitanie-Casamance, nous avons des contacts étroits avec eux. Et ensuite une autre association qui est basée près de Muret, à Mozac, La Main sur le Cœur, qui travaille aussi régulièrement là-bas et que nous rencontrons assez souvent et avec qui nous avons des échanges.
Et vous essayez de travailler en bonne intelligence, évidemment, avec tous ceux qui œuvrent dans le même sens que vous et dans les mêmes domaines. Eh bien, merci pour cette présentation très complète de l'association AMK, de son organisation, de son fonctionnement et de son domaine d'action. Avant de rentrer dans le détail de ses actions, justement, et de vos projets en cours ou à venir, je propose que nous fassions la pause habituelle dans cette émission en écoutant le Gloria de la Missa Luba, la messe congolaise.
Thank you.
Et nous revoici avec mes deux invités du jour, Marie-Sylvie Massy et Julien Albar, tous deux membres de l'association AMK, association que nous avons présentée en première partie de cette émission. Je rappelle qu'elle œuvre depuis 25 ans dans l'action humanitaire au Sénégal, en Basse-Casamance, dans les domaines médical, dentaire et éducatif. On en vient aux actions que vous menez. Quelles sont les plus marquantes depuis que l'association existe?
On peut commencer par les missions médicales. Pendant 20 ans, jusqu'en 2019, donc juste avant Covid, nous avons conduit 3 fois par an des missions médicales de 15 jours itinérantes dans les villages. Nous suivions environ 25 villages, donc avec une équipe de 10-12 personnes, en général 2-3 médecins, 2 dentistes, 1 pharmacien, 2 infirmières et 2 logisticiens. Voilà, ces missions ont été arrêtées en 2019 parce que nous nous sommes aperçus qu'au niveau santé, beaucoup de problèmes avaient été résolus localement avec les postes de santé et qu'on devait passer à d'autres actions.
Après, il y a eu des actions qui se sont déroulées sur des temps beaucoup plus longs.
Alors, on a construit quand même un poste de santé à la demande justement du village de Diamberin où nous étions basés. Nous avons fait opérer des enfants de chirurgie cardiaque, dont 2 à Toulouse à la clinique Pasteur. On a créé donc un internat de jeunes filles parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes filles qui habitaient en particulier dans les îles ne pouvaient pas suivre une scolarité normale. Donc, on a bâti un internat qui fonctionne justement avec les parrainages. Et on a aussi, à la demande de justement d'une jeune Africaine qui s'appelait Alimatou et qui était professeure et qui faisait ça pendant les vacances scolaires dans une vieille école, on a bâti une garderie où là, maintenant, fonctionnent 100 à 150 enfants qui sont bien pris en charge par...
Bien encadrés, bien pris en charge par
des jeunes femmes. Et puis, on a créé le cabinet dentaire parce que les dentistes se plaignaient, si vous voulez, qu'ils n'étaient obligés de faire que des extractions. Donc, ils pouvaient arracher jusqu'à 8 dents dans un village à la même personne qui venait le lendemain dans un autre village pour se faire arracher d'autres dents. Et tout ça, on s'est rendu compte que c'était quand même très dur. Et là est partie l'idée du cabinet dentaire qu'on a bâti avec, bien entendu, les structures régionales qui nous ont aidés. Et maintenant, on se base, si vous voulez, sur l'aide alimentaire, l'aide qui pourrait permettre à cette population d'avoir une meilleure santé en mangeant mieux.
On pourrait insister sur cet aspect parrainage, autant au niveau de l'internat de jeunes filles, internat pour l'hébergement, et elles vont dans les collèges du village, entre autres Diamberin. Donc sur ce côté parrainage, pour l'internat, il y a 50 parrains environ qui assurent, disons, comme nous le précisions auparavant, tous les mois, un apport financier. Mais on souhaiterait aussi développer les parrainages au niveau de la garderie. C'est une action dont nous avons parlé encore il y a quelques jours. Et les développer aussi, les parrainages, au niveau du cabinet dentaire de Delenkin.
Mais qui sont les parrains?
Alors, les parrains, ce sont des gens qui nous ont connus, des gens qui nous ont croisés, des gens qui sont venus sur place en touriste et qui ont été intéressés par nos actions. En fait, les parrainages, c'est entre 15 et 20 euros par mois. Donc, avec une déduction fiscale,
gens... C'est quelque chose de très raisonnable.
Oui, je veux dire, c'est vraiment plus que raisonnable. Il faut avoir le premier geste et puis après on continue.
Pour être plus précis, on parle de parrainage, mais on devrait aussi parler de marrainage.
Bien sûr.
Et après, il y a des gens qui nous font des dons par an, qui s'intéressent à notre association.
Un don annuel.
Un don annuel. Mais c'est vrai que notre plus grand souhait, c'est quand même des parrainages, parce que si vous voulez, ça nous permet d'avoir une vision plus globale de notre budget, enfin de ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Oui, et combien de personnes
en termes de trésorerie, c'est plus facile à gérer vous, évidemment, pour avoir une vision un peu plus à long terme. Voilà. À quelles difficultés pouvez-vous vous heurter dans la réalisation de vos actions, de vos projets en Basse-Casamance? Ce qui va manquer lorsque vous voulez lancer un projet, vous vous rendez compte qu'il y a un manque, il faudrait construire ou mener telle action, et il n'y a pas toujours l'argent. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes religieux parfois, par exemple?
Non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème religieux parce que, bon, mais de toute façon, même au sein de notre association, il y a des laïcs, on ne rentre pas dans l'association parce qu'on est catholique.
Je veux dire sur place, moi, des problèmes sur place, parfois.
Non.
Je sais que ça peut exister, malheureusement.
Oui, non, mais là, ils n'ont...
Pour faire certains soins, notamment à des femmes.
Alors, c'est vrai que quand des gynécos venaient, ça fonctionnait mieux avec des femmes. Mais on avait des traducteurs qui se mettaient derrière les rideaux et qui traduisaient tout à fait en bonne...
Il n'y a jamais eu de blocage dû à des problèmes de ce genre. Non.
Ce qu'on peut dire, disons, au niveau de difficulté, c'est dans les différentes structures qu'on a créées, l'internat, par exemple, c'est le problème de maintenance des équipements. Ce n'est pas toujours facile. Il faut en permanence faire le point. Je dirais à chaque mission, par exemple, nous avons mis en place pour l'internat un comité de gestion, mais il faut provoquer les réunions pour pouvoir en discuter et prendre un certain nombre de décisions pour que, petit à petit, les choses ne se dégradent pas.
Oui, ça demande, c'est vrai, une énorme présence. Par exemple, au niveau de l'internat, c'est vrai que on pourrait solliciter maintenant des professeurs à la retraite qui viendraient passer quelques temps pour aider les élèves et puis pour voir ce qui ne va pas. Si vous voulez, il y a quelquefois un petit peu d'abandon. Si vous voulez, les directrices, par exemple, de l'internat sont des professeurs. Elles sont en activité dans l'école. Donc, c'est leur maison, mais elles comptent, c'est vrai, beaucoup sur nous pour la faire fonctionner. Et puis, là-bas, c'est du sable. Donc, tout s'abîme énormément quand même. Si on n'y est pas régulièrement, tout peut s'abîmer.
Le problème d'entretien, de maintenance qu'évoquait à l'instant Julien Albar. Quelles sont les compétences qui vous manquent aujourd'hui pour mener certaines de vos actions? Allez-y, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent.
Je dirais qu'on a besoin de toute main-d'œuvre, c'est-à-dire des gens qui peuvent suivre des travaux, des gens qui peuvent aider dans les travaux, parce que si vous voulez, quand on y va, on est obligé de repeindre, on est obligé de ranger l'électricité, on est obligé d'améliorer, et c'est du travail non-stop. Hein. Quand les gens y vont 15 jours, ils ont vraiment toujours quelque chose à faire pendant 15 jours. Après, c'est des professeurs qui pourraient faire travailler les élèves.
Des professionnels de la santé.
Oui, des professionnels de santé, des dentistes. J'ai envie de dire que quand même, toute bonne volonté peut avoir une action là-bas.
Apparemment, il y a tellement à faire.
Voilà.
Et j'ajouterai entre autres, nous avons besoin éventuellement d'informaticiens pour gérer nos fichiers, pour gérer la communication, pour coordonner cet aspect-là, qui souvent, actuellement, peut poser des problèmes.
Oui, pour nous faire connaître, parce que c'est vrai que...
Ça, vous parlez de compétences d'informaticien à Toulouse, dans la région.
Voilà.
Parce que c'est vrai que...
Ou à Montpellier.
À Montpellier, bien sûr.
Il y a beaucoup de jeunes, mais qui sont toujours en activité. Donc, dans notre association, en particulier des médecins, donc qui sont en activité, donc qui travaillent. Et puis ensuite, il y a beaucoup de gens comme nous, des retraités, qui ne sont pas des pros de tout ce genre de choses, qui feraient que... On serait mieux connus et je pense qu'on pourrait trouver des gens qui pourraient nous aider plus facilement.
Ça, je suis persuadé que ça existe. Voilà. Quels sont vos projets en cours ou à venir? Alors, je crois qu'il y a un gros projet qui concerne vraiment l'alimentation.
Oui, qui concerne l'alimentation, qui concerne la mise en place pour 3 établissements éducatifs gérés par les sœurs piaristes. C'est une congrégation dont l'origine est en Espagne, près de Barcelone. Et elles ont développé à partir de 1965 beaucoup d'établissements d'enseignement, entre autres dans plusieurs pays, mais entre autres au Sénégal et entre autres dans le département d'Oussouye. Donc il y a à ce niveau-là beaucoup d'établissements et donc c'est dans le cadre de 3 établissements, 2 établissements de préscolaire où il y a des enfants de 3 à 6 ans, 60 enfants pour chaque établissement, et ensuite avec un internat similaire à celui que nous avons fondé, et d'ailleurs nous l'avons fondé en lien avec l'internat des sœurs qui existait déjà à Oukout, près d'Oussouye, où il y a 32 jeunes filles. Et donc ces 3 établissements sont relativement proches, à quelques kilomètres, et les sœurs piaristes avait prévu un projet de création d'un jardin pour l'approvisionnement de ces établissements. Donc, nous avons échangé avec elle et nous avons pris en main un petit peu le montage de ce jardin, comprenant un jardin pour cultiver des légumes, un verger et ensuite, dans une deuxième étape, voir la création de petits élevages, création d'un élevage de poulets de chair et d'un élevage de cochons.
Oui, parce que ce qui manque beaucoup dans cette alimentation, ce sont des protéines notamment.
Voilà. Les médecins de notre association se sont de suite aussi intéressés à ce projet. Parce que c'est vrai qu'un soutien à une alimentation plus diversifiée, notamment en légumes et en fruits, serait certainement plus pérenne que nos consultations quand on passe. Une alimentation riche en végétaux et en protéines est un facteur scientifiquement reconnu de lutte contre ces maladies et les maladies métaboliques. Et ensuite, manger des légumes et des fruits cultivés par eux aurait énormément de sens.
Ça serait beaucoup plus valorisant, parce que voilà. C'est eux qui produiraient, bien sûr.
Manger un bol de riz
ou aller...
Qui vient de Thaïlande, là, si vous voulez. Donc, je pense que les choses pourraient changer s'il y a de plus en plus de jardins comme ça, dans leur fonctionnement, parce qu'en plus, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ces jardins. Donc, d'elles-mêmes, elles diversifierait l'alimentation de toute cette population. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée aux sœurs piaristes aussi. Elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas continuer comme ça dans l'alimentation des enfants.
Ça veut dire qu'elles ont déjà des terres qui sont à disposition pour monter ces projets ?
Alors, on peut dire que la congrégation des sœurs piaristes sont les porteurs du projet. L'association MEK serait le monteur du projet sur les plans techniques et financiers. Donc c'est en place, nous développons un certain nombre de contacts en ce sens. Un terrain a été trouvé par les sœurs piaristes. Ce terrain est très proche du village, mais en bordure de forêt. Et il a fallu commencer par le déboisement. Et maintenant, nous devons mettre en place une phase de dessouchage compte tenu des arbres qui étaient implantés. Et ce terrain de 1 hectare a été borné tout récemment par la mairie d'Oukout qui suivait le projet.
Parce que, bon, il va falloir défricher pour pouvoir cultiver ou faire de l'élevage, mais aussi il faut de l'eau. Est-ce que l'eau est à disposition ou est-ce qu'il faut forer, créer des puits pour pouvoir avoir de l'eau et arroser les plantations ?
Alors, pas encore, mais c'est prévu. Moi, j'y étais avec un eau. Collaborateur Jean-Claude Marquis il y a quelque temps, donc tout ça a été vu.
Disons que ce projet est prévu en plusieurs étapes. Tout ne sera pas réalisé.
Et j'imagine bien.
Pour le moment, les premières étapes, ça a été le déboisement, organisé par les sœurs en lien avec les personnes du village, puisque l'objectif aussi est de faire travailler les jeunes, la main-d'œuvre du village, de les faire participer. Par exemple, pour le déboisement et maintenant pour le dessouchage, tout le bois qui a été extrait a été, disons, pour faire du charbon de bois. Et ce charbon de bois est disponible maintenant la moitié pour les établissements éducatifs pour la cuisine et l'autre moitié pour les personnes qui ont participé à ce chantier.
Il va sans doute falloir aussi créer un enclos parce qu'il y a des animaux qui peuvent éventuellement venir tous s'alimenter eux-mêmes avec les cultures.
C'est peut-être la phase la plus importante. Ouais. Puisqu'un hectare, c'est 400 mètres de clôture. Et 400 mètres de clôture, au départ, les sœurs avaient envisagé carrément un mur de 2 mètres de haut. Nous avons discuté, négocié avec elles pour prendre une clôture quand même moins coûteuse, à savoir un muret de 1 mètre de haut environ, bien implanté dans le sol, après avoir creusé une tranchée, et ensuite du grillage dessus. Donc 400 mètres de clôture, nous avons fait faire 3 devis et c'est quand même un des postes les plus importants. Pour savoir où on va à ce niveau-là, nous avons retenu de commencer à faire une clôture sur 50 mètres pour bien voir les matériaux nécessaires et le temps de travail nécessaire pour mieux définir les coûts de cette tranche-là.
Parce que c'est vrai que c'est la priorité, parce que vu l'endroit où se trouve ce jardin, puis en Afrique c'est comme ça, il y a beaucoup d'animaux domestiques et d'animaux sauvages qui viennent se servir. Et c'est vrai que même les femmes qui ont fait des petits jardins à gauche et à droite sans clôture, c'est souvent laissé à l'abandon parce que c'est pris par les animaux, même domestiques, qui viennent se servir. Donc ça, c'est vraiment la grande priorité. On ne pourra le faire, ce jardin ne pourra fonctionner qu'avec une clôture, quoi.
Oui, bien sûr, il faudra mettre à l'abri les cultures et puis les animaux que vous allez élever, les poulets notamment, voilà. Des prédateurs qui peuvent rôder, ouais, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ouais. D'ailleurs. La deuxième étape des travaux, ce sera quoi?
Disons, suite à la clôture, il est prévu, nous en parlions tout à l'heure, de faire un puits. Au lieu d'un puits, ce sera plutôt des forages qui seront moins coûteux.
Oui, qui permettront donc d'approvisionner en eau les cultures, et puis les élevages aussi, bien sûr, parce qu'il faudra de l'eau aussi pour les animaux. Qui va gérer après sur place? Parce qu'il va falloir le gérer, tout ça. Il faut des jardiniers, je suppose.
Voilà. Alors, c'est la tranche suivante. Nous envisageons la construction de quelques locaux. D'abord, un local de service pour préparer les légumes, pour les stocker, les légumes et les fruits pour les stocker et les mettre à disposition des trois établissements. Et ensuite, disons, un local de cases, de chambres pour loger deux ouvriers jardiniers. Et enfin, comme derniers locaux à mettre en place, c'est des locaux d'élevage, à savoir un poulailler pour élever des bandes d'environ de 100 poulets successivement au cours de l'année. Et ensuite, quelques cochons, des places pour une vingtaine de cochons sont prévues. Donc, ce n'est pas des gros élevages, c'est des élevages adaptés aux besoins de ces établissements.
Et vous avez déjà le financement pour mener à bien ce projet ou il y a des discussions en cours?
Alors, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Nous cherchons des financements pour nous aider dans ce projet. À savoir, quand vous parliez de comment va se dérouler ce projet, il faut dire qu'il y a deux sœurs piaristes sur place qui sont d'une grande, grande efficacité. C'est deux sœurs jumelles, ce qui est assez amusant.
Ah oui. Ce sont des sœurs africaines, elles sont vraiment autochtones.
Mais qui sont d'une grande efficacité. Donc, dès que ce sera clôturé, elles s'arrangeront pour qu'il y ait une personne sur place.
Ça ira vite ensuite,
vous voulez
dire.
Elles ont une structure, elles sont vraiment bien, bien intéressées. Elles savent très bien où est-ce qu'elles vont. Donc, nous, on les suit, mais elles savent vraiment très bien comment ça peut fonctionner.
Et alors, donc, pour ces problèmes de financement, d'apport d'aide financière, puisque le projet, quand même, représente un investissement relativement important, actuellement, nous avons contacté le Collège du Kaouzou, qui nous avait déjà apporté une aide il y a une dizaine d'années. Et la présentation a été faite la semaine dernière, d'ailleurs, au Kaouzou, à la commission d'éthique. Et nous avons eu l'information comme quoi nous étions, dans un premier temps, retenus au niveau de ce projet. Ensuite, cet après-midi d'ailleurs, nous avons contact avec la fondation Pierre Fabre à Lavaur pour voir les possibilités, comme dans le cas de l'opération dentaire des années 2022-2023, nous allons voir les possibilités pour qu'ils nous apportent une aide à ce niveau-là.
Mais j'ai envie de dire qu'il va falloir quand même que plusieurs structures nous aident ou plusieurs donateurs nous aident parce que c'est quand même une somme assez importante. Ce n'est pas quelque chose qui peut fonctionner qu'avec une seule structure qui nous aide. Voilà.
Parce que les travaux à mener pour que ça puisse fonctionner assez rapidement, s'il y a l'argent bien sûr, ça se fait en combien de temps? Ça a été évalué ça, la durée des travaux pour que ce soit fonctionnel?
Donc il y a les différentes tranches. C'est démarré depuis disons à peu près un an au niveau du déboisement. Maintenant, c'est les phases de dessouchage et de forage que nous allons mettre en place. Et ensuite, ce sera la clôture à mettre en place. Ça est un chantier relativement important. Et enfin, la phase d'implantation de locaux, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Nous ne nous précipiterons pas. C'est fonction aussi des aides financières que nous pourrons trouver ici ou là.
Mais je pourrais ajouter qu'à partir du moment où la clôture sera faite, connaissant les religieuses, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que dans 6 mois, elles feront ce qu'elles peuvent pour déjà mettre en place une culture, que ce soit du riz, n'importe quoi. Mais ça sera
et planter des arbres aussi, parce qu'il y a un verger. Voilà. Ça, c'est peut-être le plus rapide.
Sur cette mise en culture, soulignons que déjà, au cours de l'année qui vient de s'écouler, il y a eu des plants de riz qui ont été cultivés sur une partie de la parcelle, des plants de riz pour les gens du village. Et en deuxième phase, il y a eu une petite production de légumes qui a déjà commencé.
Dès qu'elles ont eu le terrain, elles ont commencé à planter quelque chose.
Alors on précise évidemment pour ceux qui voudraient vous soutenir financièrement que les dons donnent droit à déduction fiscale de l'ordre de 66% pour un particulier, c'est comme pour toutes les associations. Les gens reçoivent un reçu fiscal. Et pour ce faire, comment on peut vous contacter? C'est sur le site de l'association qu'il y a toutes les données, les adresses mail, les numéros de téléphone?
Oui, tout à fait. Sur le site de l'association, vous trouverez toutes les adresses. Mais vous pouvez tout à fait me joindre à mariesylviemassy@gmail.com ou au 06 11 71 57 11.
Je remettrai ces numéros et cette adresse mail sur le podcast de l'émission.
Ensuite, si vous voulez avoir de la documentation sur nos actions, vous pouvez voir sur Internet notre site, taper tout simplement AMK, les trois lettres AMK, et en même temps, vous ajoutez AM Kasumai. Kasumai, vous êtes tout simplement dire bonjour. Donc, tout se tient AMK A 2 S O U M A Y E. WordPress, WordPress.com.
Voilà, mais écoutez, tout ça est bien noté. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier tous les deux, Marie-Sylvie Massy et Julien Albar. Je rappelle l'adresse du site de l'association AMK, vous venez de le donner. Donc c'est www.amkasumaye.wordpress.com. Cette émission était animée par Eric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Excellente journée à tous, à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.